Voici Wagon Livre, 174e numéro de votre rendez-vous littéraire sur Radio. Vous commencez à le savoir, certains de vos rendez-vous culturels sont enregistrés chez nos amis de la librairie avalonnaise L'Autre Monde. Carole Amicel et Evelyne Levallois et toute leur équipe nous accueillent toujours chaleureusement dans leur librairie. C'est au 42 Grande Rue, je le répète donc, à Avalon. Evelyne qui est avec nous ce soir, bonsoir Evelyne.
Bonsoir Yannick.
Qui nous accompagnera et puis qui, au milieu des 600 nouveautés de la forêt de papier de la rentrée littéraire, va débroussailler, trier et nous offrir un coup de cœur en fin d'émission. Pour cette émission de rentrée à la librairie d'Avalon, nous accueillons un écrivain qui s'est penché sur l'histoire de son grand-père juif, russe, venu se réfugier dans le pays des droits de l'homme, en France, dès 1905. Daniel Chambon, bonsoir.
Bonsoir.
Et puis je souligne que l'émission est enregistrée, comme à l'accoutumée, en public. Bonsoir au public et merci à vous d'être avec nous ce soir.
Le public est bon. Hein.
Le public est bon. Alors, votre livre aussi est bon, Daniel. Depuis avril dernier, se trouve disponible en librairie le livre que vous avez produit sur le parcours, l'itinéraire de votre grand-père et qui a pour titre « Monsieur Léon, juif russe, 1882-1928 ». L'ouvrage est disponible en librairie aux éditions Max Chaleil. Édition de Paris.
Édition de Paris, oui.
Très important. Édition de Paris. Alors, il faut dire que vous n'avez pas connu ce grand-père. Hein. Vous êtes né, vous, en 1941, Daniel.
Oui.
Ce grand-père est mort en 1928, mais vous en avez toujours entendu parler. Alors, on ne va pas trop raconter la vie du grand-père, mais je vais me permettre d'en souligner au moins les grandes lignes, les faits marquants, si vous en êtes d'accord. Alors, ce grand-père s'appelle Léon Doubrovski. Je répète, il est né en 1882 en Russie. Il a vécu à Tchernigov, au nord de Kiev, dans cette Russie des tsars. Hein. Et il décide de fuir la Russie tsariste à l'âge de 23 ans. Il choisit la France et il fait donc un long voyage en train. Il traverse la Pologne, l'Allemagne, il passe par Strasbourg et il arrive à Paris fin décembre 1905. C'est un grinet en France, comme on dit en yiddish, c'est-à-dire que c'est un nouveau venu. Et puis comme Léon Doubrovski a appris le métier de tailleur, il s'établit dans le milieu de la confection, grâce aussi un peu à la solidarité de la communauté juive parisienne. Cette profession lui réussit extrêmement bien parce qu'il a un véritable talent. Mais pour lui, la France, parce qu'il est francophile et même francophone, la France ne va pas lui attribuer la nationalité trop rapidement. Il rencontre une première femme qui se prénomme Rachel, qu'il épouse en 1907, qui lui donne un fils, Jean-Charles. Et notre Léon Doubrovski va se retrouver très rapidement veuf en 1910. Hein, vous voyez, il se marie en 1907, il a cet enfant, Jean-Charles, et en 1910, il se retrouve veuf avec ce petit garçon sur les genoux et dans les bras. Il est employé à la Belle Jardinière, chez Augustin Lebon, où ses talents de couturier sont reconnus et appréciés. Et c'est une époque aussi formidable, parce qu'on taille... Il faut imaginer, pour ceux qui aiment les beaux costumes, les messieurs ont fait des vêtements sur mesure. Quoi. C'est vraiment de la confection, c'est de l'artisanat.
C'est... Il est d'abord artisan, hein, et puis il a quand même une clientèle relativement limitée. Et il a la possibilité de travailler pour la Belle Jardinière, parce qu'en dehors de la confection, qui existe quand même pas encore comme on la connaît maintenant, la Belle Jardinière a eu l'idée de créer un rayon sur mesure. Mais il faut des artisans, il n'y en a pas dans la société, dans l'entreprise, donc on va chercher des artisans et on sous-traite, et voilà. Et là, ça lui assure une clientèle régulière, bien entendu, il laisse un pourcentage au passage, hein, c'est la vie, mais voilà, il travaille bien, travaille très bien.
Il a un véritable talent, il va même se rendre en Turquie, à la maison Schneider, donc il prend l'Orient Express, payé par son patron, et là, il découvre Constantinople et Istanbul, et là, il trouve sa deuxième femme, c'est en Turquie qu'il trouve sa deuxième femme, qui est également juive, qui s'appelle Anna Bernholz, et qui va lui donner trois filles et un garçon.
Non, deux filles.
Deux filles ?
Deux filles.
Et un garçon, on est d'accord. Bien. Arrive la guerre de 1914 et se pose un problème pour Léon Dubrovski. Il n'est pas français, donc il n'est pas mobilisable et il n'est pas mobilisé. On reviendra d'ailleurs sur cette difficulté des Juifs qui n'ont pas la nationalité française et qui ont mal vécu le fait de se sentir finalement apatride, enfin de se sentir ni français, juif, enfin on y reviendra. Alors il va, selon la tradition familiale, s'engager dans la Légion étrangère. Je dis selon la tradition familiale parce que...
C'est pas seulement la tradition familiale, c'est que...
C'est ce qu'on vous a dit en tout cas.
Non, absolument pas. Non. Son frère s'est engagé aussi, son beau-frère s'est engagé aussi. Les Juifs se sont engagés en masse dans la Légion parce que, étant étrangers, ils ne pouvaient pas aller dans les régiments nationaux. Mais ils avaient une volonté très forte d'intégration. Ils sont venus en France se réfugier. Les pogroms en Russie, ils savaient ce que c'était. Il y avait des milliers de morts. Et donc, dès qu'ils pouvaient, ils sont partis. Et ils voulaient absolument s'intégrer. Le meilleur moyen de s'intégrer, de prouver leur attachement à leur terre d'accueil, la France en l'occurrence, c'était de s'engager. Voilà. Textuellement, mon grand-père a dit à ma grand-mère, voilà, on est venu ici profiter des avantages que la France nous offre. La France connaît des ennuis, on la défend. Et ils se sont engagés en masse. C'était pas une tradition familiale, c'était une volonté de la plupart des Juifs qui étaient sur le sol national de s'engager dans l'armée. Voilà.
Uniquement pour la durée de la guerre.
Alors, il devient français en 1925, c'est-à-dire 3 ans avant sa mort, puisqu'il meurt en 1928 de la tuberculose.
Voilà.
Alors, Evelyne et moi-même, bien sûr, avons lu votre texte et on s'est demandé pour quelles raisons vous aviez souhaité écrire un récit, c'est-à-dire un texte à la première personne, plutôt qu'une biographie. Pourquoi le choix du « je » plutôt que de dire Léon Dubrovski ou le choix de la troisième personne du singulier?
Choix d'autant plus étrange que vous annoncez depuis le début que je est mort. Comment il fait pour parler puisqu'il est mort? Alors ça...
C'est l'artifice de l'écrivain. Je suis bien embêté parce que là il va falloir que je vous dévoile quand même un secret, c'est que je ne savais pas comment raconter cette histoire. Et je pouvais pas dire, enfin, d'une façon linéaire, voilà, il est arrivé ici, il a fait ça, etc., etc. Bon, comme on le voit dans... Bon, je pouvais pas. Et puis, il y a aussi un autre phénomène, c'est que, comme vous l'avez entendu, je n'ai pas connu mon grand-père, donc je n'avais pas de deuil à porter. Donc j'étais dégagé psychologiquement, affectivement aussi, de cette histoire. La meilleure façon de le raconter, puisque c'est vrai, vous avez parfaitement raison, qu'est-ce qui m'a pris de raconter l'histoire d'un grand-père que je n'ai pas connu, et qui est après tout un homme tout à fait anonyme. Personne n'en a entendu parler jusque-là. Maintenant, tout le monde va s'arracher le livre, tout le monde va le connaître. Bon, ça, c'est très bien.
Grâce à Radion.
Voilà, ouais. Mais ce n'est pas encore le cas, il y a quelques mois. Donc, j'avais quelque part une espèce d'affect, un besoin de le faire, sans aller chercher des ressorts psychologiques, mais j'avais un besoin de le faire parce que j'ai trouvé que c'était une histoire intéressante et surtout que ça me touchait. Donc si ça me touche, pourquoi ce serait pas moi qui parle? En fait, c'est ça. Et si je le raconte à la première personne, ça me permet, les gens qui achèteront le livre, les heureux bénéficiaires seront très contents de l'apprendre. Ça me permet de faire passer quelques idées personnelles, la façon, en fait, dont j'ai imaginé que mon grand-père était. Comment je le savais? Parce que ma grand-mère est morte, j'avais 23 ans. Donc elle a quand même eu le temps de transmettre, de me raconter des choses sur mon grand-père, etc., etc. Ma mère aussi, bien entendu, mon oncle, ma tante, enfin bon, voilà, des cousins, des tantes. Mais je m'en faisais quand même une image. Et cette image, bien entendu, je la transposais. Et à force de transposition, plus ou moins, je suis devenu mon grand-père. Toute proportion gardée, Flaubert disait, Madame Bovary, c'est moi. Voilà, pourquoi moi, je ne serais pas mon grand-père? Hein, voilà, et c'est pour ça que je le raconte à la première personne, et en plus c'est un artifice, je ne veux pas dire d'écrivain, c'est un bien grand mot en ce qui me concerne, mais c'est un petit peu un artifice parce que ça me permettait de développer l'histoire plus facilement.
En fait, c'est une fausse autobiographie et une vraie biographie à la première personne du singulier.
C'est une biographie, c'est pas une autobiographie, c'est pas Léon qui raconte l'histoire. Quand un historien fait un livre, je ne sais pas, sur un personnage connu, on va dire, je sais pas, le général de Gaulle, bon, c'est pas une autobiographie de Gaulle, c'est une biographie de Gaulle. Voilà.
Votre grand-père, vous faites dire à votre grand-père que vous êtes un fouinard. C'est vous le fouinard.
C'est moi le fouinard, parce qu'il a fallu que je remonte des documents, que je fasse toute une enquête, pas généalogique, parce que je savais la généalogie, je connaissais voilà, mon grand-père, hein, de par les dates qui bornent son existence. Mais il y avait tant de faits que je ne savais pas, il a fallu que je retrouve enfin, par où il était passé, ce qu'il avait fait, etc., etc. Donc ça m'a amené quand même à ramener beaucoup de documents, et comme je voulais, et je crois que c'est essentiel, replacer mon grand-père dans le contexte des époques qu'il avait vécues, c'est-à-dire quand même 23 ans, c'est pas rien, ça forme un homme 23 ans, dans la Russie tsariste, dans la Russie des pogroms, enfin, etc., dans la Russie de la persécution, bon, c'est 23 ans, il est mort à 45, donc c'est quand même la moitié de sa vie. Hein. Donc il fallait que je me documente bien, j'avais quand même beaucoup de notions, mais pas suffisamment pour en faire une histoire. Ensuite, il y avait eu l'avant-guerre, hein, c'est-à-dire son séjour en France avant la guerre de 14, ce qu'on appelait la Belle Époque, qui, comme chacun sait, n'était pas belle pour tout le monde, et en tout cas pas pour les petits artisans tailleurs juifs, immigrés, etc. Bon, et puis la guerre de 14, je ne raconte pas les batailles de la guerre de 14, enfin une ou deux, comme ça, ou... bon, mais ça ne sert à rien, il y a des rangées de bouquins sur la guerre de 14. Par contre, sur la zone de résidence où étaient cantonnés les juifs dans la Russie tsariste, là, il n'y en a pas. Vous voyez ? Donc, il fallait que je dise quelque chose. Donc, je me suis bien documenté là-dessus. Ça m'a pris 3 ans.
Mais vous n'aviez pas de matériel autobiographique de la part de votre grand-père ?
Ah, pas du tout.
Il n'a pas laissé des lettres,
il n'y a pas des carnets, un journal intime.
Absolument rien. Absolument rien. Et puis, bon, il y a une tradition orale, hein, comme dans toutes les familles. On a des grands-pères, etc. Bon.
Elle se pose quand même le problème de, justement, pardonnez-moi Daniel Chaumont, se pose le problème de la vérité. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que vous aviez été bercé peut-être par un portrait enjolivé du grand-père ? Quelle était l'image de ce grand-père ? Comment vous le présentait-on ? Comme le juif qui avait réussi son intégration ? Comme un homme qui était un mensch ? C'est-à-dire un homme honorable, juste, bon, qui avait fait sa place honorablement dans la société française, qui avait fini par l'accueillir quand même.
Oui, ça...
Comment le vous présentait-on à l'époque,
non, alors voilà,
ce grand-père ?
Il y avait une dominante quand même. Hein. Mon grand-père, il arrive en France, il fait sa vie, il commence à la réussir, et dès qu'il est installé, intégré, à peu près, parce que les Juifs sont jamais intégrés, hein, on se demande ce qu'ils foutent là, ils seront jamais français, ils sont partout, ils ont de l'argent, bon, c'est pas vrai. Mais en fait, ça fait rien, c'est l'imaginaire. Hein, et dès qu'il a pu, il a fait venir sa famille. Sa famille, c'est quoi ? C'est plusieurs sœurs, un frère, etc., qui sont tous venus ici. Hein. Et encore une cousine qui est encore vivante, qui a 84 ans, me dit, mais quand ma mère est arrivée, hein, ton grand-père, il lui a dit, t'arrêtes le yiddish, ici on parle français. Vous voyez ? C'était ce besoin d'intégration, ça y est, ils devenaient français, ils étaient français. Et ça, c'est un axe majeur. Alors, là-dessus, la famille en était fière, parce que les enfants étaient français, etc., etc. Il y avait... Lui, s'est fait naturaliser. Mais avant d'être naturalisé, je ne sais pas si ça existe toujours, hein, pour les gens qui sont étrangers, qui arrivent en France ou ailleurs, mais bon, ça existait en tout cas à l'époque. Il y avait ce qu'on appelait français par déclaration pour les enfants. C'est-à-dire que les gens posaient la demande de naturalisation. Ça demandait plusieurs années. En attendant, ils voulaient être sûrs que les enfants qu'ils avaient nés sur le sol français soient français. Donc, des démarches, bien sûr, et on allait voir un juge de paix, ça n'existe plus maintenant, les juges de paix, hein, et les parents signaient une demande pour que les enfants soient français par déclaration, avec, et c'est essentiel, l'impossibilité à leur majorité, qui à l'époque était 21 ans, de revenir en arrière, c'est-à-dire de dire je ne veux plus être français, je veux je veux rester russe, je veux rester n'importe quoi. Bon, non. Les parents avaient pris l'engagement que leurs enfants, à leur majorité, ne changeraient pas d'avis. Vous voyez, c'est vous dire le besoin et la volonté surtout d'intégration. Donc, mon grand-père était français, ses enfants étaient français. Il n'y avait pas à revenir là-dessus. Hein? Voilà. Il a eu la chance, si on peut dire, de mourir avant la catastrophe, la Shoah, la guerre et les déportations. Et c'est pour ça que les Juifs français n'ont pas compris qu'on les arrête, qu'on les déporte dans les camps, parce qu'ils étaient français. Certains étaient, comme mon grand-père, il aurait pu être arrêté, mais il est mort avant, anciens combattants de la guerre de 14. Certains étaient officiers. Enfin, vous voyez, depuis plusieurs générations, ils étaient français. Qu'est-ce qu'on va... Voilà.
Mais il arrive quand même en France dans un contexte où on est encore dans l'affaire Dreyfus. Hein. On n'a encore pas digéré tout ça.
Ah, on est encore dans l'affaire Dreyfus, mais l'affaire Dreyfus, bien sûr, il y a toujours eu un fond d'antisémitisme. Et donc, si vous voulez, pour... voilà. Donc j'avais cette image du grand-père qui était français. Et puis j'avais une autre image aussi. Et c'est sur celle-là que je me suis appuyé, et ça a été un petit peu le moteur pour que je fasse ce livre, c'est que quand j'allais, parce que j'y allais accompagner ma grand-mère tous les ans rituellement sur la tombe du grand-père, là, il est enterré à Nangis, en Seine-et-Marne, hein, c'est pas loin, alors on y allait tous les ans, et puis elle me disait, mais qu'est-ce qu'il avait besoin? Mais qu'est-ce qu'il avait besoin? On serait devenu français quand même. Oui, mais lui, il voulait défendre la France. Vous voyez, c'était aussi une volonté. Alors, il y avait cette ambivalence, parce que effectivement, quand il est mort, il a laissé 3 gosses. Ma mère était l'aînée, avait 11 ans. Ma grand-mère avait 38 ans. Et s'est retrouvée d'un seul coup d'une bonne situation, parce qu'il travaillait bien, hein, à presque la misère. Elle n'avait plus de revenus. Vous voyez, ça a été un choc. Hein. Et bon, pour la petite histoire, je ne le raconte pas, parce que mon livre s'arrête en 1928 à la mort du grand-père. Hein. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait venir sa mère de Turquie pour garder les gosses, pendant qu'elle prenait une patente de marchande foraine pour vendre de la bonneterie sur les marchés. Moi, je me souviens bien, quand j'étais gosse, j'allais l'aider à monter ses étals, à déballer ses corsets, ses soutiens-gorge, des trucs, des machins, que les femmes portent plus maintenant, enfin, les corsets en tout cas. Les soutiens-gorge, si. Mais bon, mais pas les mêmes. C'était des trucs roses, énormes, enfin bon, en tissu épais, c'était horreur. Bon, mais voilà. Et elle a fallu qu'elle survive, qu'elle élève ses gosses. Hein, et dans l'image du grand-père, qui... peu ou prou, bien entendu, c'était pas sa faute, il avait été malade, mais avait été défaillant. Les gosses n'avaient l'image que d'un père malade qu'ils ont vu aliter tout le temps. Vous voyez ? Et c'est cette image-là que j'ai voulu sortir un peu pour en faire, non pas, comme on dit en patois bourguignon, un loser, mais, excusez-moi,
c'est trop. Vous croyez que c'est du patois,
bien sûr.
Admettons.
Hein, mais pour en faire un mensch, effectivement, c'est-à-dire un homme. Hein, le mensch, c'est ça. C'est ce qu'on appelle un mec, un Jules, quoi, hein, un dur, un tatoué, voilà, un mensch. Hein, c'est du yiddish.
Un homme respectable. Alors, le petit-fils se souvient de ce que le fils veut oublier. Le petit-fils, il est avec nous, c'est Daniel Chambon. Ouais. Il est l'auteur de Monsieur Léon, juif russe, 1882-1928. Le grand-père, c'est Léon Dubrovski. On y revient dans une poignée de minutes. Le temps pour nous de marquer une première pause musicale.
Voler rouge aux pommes, des regards où le temps s'arrête. Tant qu'il y aura des pourparlers et des fleurs pour les pardonner, il y aura dans les haut-parleurs une femme pour fredonner. Para baisers, des arêtes dans les sirènes, des intrépides pour les avaler. Tant qu'il y aura des menteurs et des fleurs pour les pardonner, il y aura dans les haut-parleurs une femme pour fredonner.
Retour à bord de Wagon Livre pour une émission enregistrée en public à la librairie L'Autre Monde, 42 Grande Rue à Avallon. Alors Daniel, si vous applaudissez devant le micro, vous allez voir, ça va être terrible. N'applaudissez pas, seul le public applaudit. Nous sommes avec Daniel Chambon, auteur de Monsieur Léon, juif russe. C'est aux éditions Max Chaleil, édition de Paris. Nous sommes aussi en compagnie d'Evelyne Levallois, notre libraire partenaire, pour découvrir le parcours et l'itinéraire donc de Léon Dubrovski. Alors, l'intégration de ce jeune juif, c'est aussi tout ce que vous racontez. Ce qui est merveilleux aussi, alors, dans une période un peu morose où la France est montrée du doigt comme n'étant pas capable de gérer son économie, enfin, rencontrant moult difficultés. En revanche, lorsque... il s'appelle Leib, hein, c'est Leib, L-E-I-B, Leib.
Efsaï Leib. Efsaï Leib. C'est vrai que c'est prononçable, hein. Pour nos lèvres, on n'y arrive pas. Donc, Leib, c'est Leib. Le plus connu de ceux qui s'appelaient Lev, c'est Léon Trotsky, hein, voyez. Donc il a francisé son prénom en Léon. Et à tel point qu'on a oublié son patronyme, hein, et dans son milieu professionnel, on l'appelait Monsieur Léon. Et ma grand-mère, se retrouvant veuve, on l'appelait Madame Léon. Tellement simple.
Et alors, justement, il arrive en France et il est heureux comme Dieu en France.
Ah, ça, c'est une expression typiquement juive, yiddish, qui courait toute la Russie. Hein, il y avait cette expression. On est heureux comme Dieu en France. Voilà. Vous voyez l'image. Parce que la Russie, même tsariste, hein, était francophile. Il y a toute une histoire d'écrivains, par exemple, qui correspondait avec Catherine, avec les autres tsars, enfin voilà, à commencer par Voltaire, Diderot, etc. Enfin bon, voilà. Et mon grand-père a appris le français. Il n'a pas appris à fond le français, il a eu la possibilité d'aller dans un lycée d'État, hein, qu'on appelait les gymnasiers, mais voilà, il a pris des cours de français. Il est arrivé en France, il avait déjà un petit bagage français. Il a oublié son yiddish pratiquement, le russe aussi, et à la maison on parlait français. Ma grand-mère qui était de Constantinople parlait français aussi. Hein, et voilà, les enfants ont été élevés en français. Vous voyez, c'est pas, on n'est pas seulement pour faire les papiers, hein, on veut vraiment s'intégrer. Et ça, c'est capital.
L'intégration aussi, c'est perdre son prénom hébraïque. Prendre effectivement aussi un prénom français. Ça, c'est important.
C'est important.
Parce qu'il y a ce... Alors, j'aimerais que vous expliquiez cette anecdote à propos de l'affaire, ce que j'ai appelé, moi, l'affaire Rachilda. C'est une catastrophe. Oui.
Non, alors ça, c'est autre chose. Rachilda, voilà. La naissance de ma mère. Ma mère est née en 1917. Hein, donc, voilà. Et les enfants, il faut leur donner un prénom. Bon. Le grand-père dit, ben, je m'en occupe, je vais avec mon beau-frère déclarer la naissance, etc. Il se trouve devant un employé de mairie. Comment on va appeler la gosse? Comment on va l'appeler À ce moment-là, il y avait... Oui, voilà. Il y avait une écrivaine qui était française, hein, qui était connue à l'époque. C'était pas Valérie machin, mais enfin bon, voilà, c'était... Hein, qui s'appelait Rachilde. Rachilde. Qui était un petit peu sulfureuse, parce que bon, c'était l'époque qui faisait ce qui voulait ça. Quelques années après, il y aura la garçonne. Bon, et... il lui passe par la tête, tiens, Rachilde, pourquoi pas? Bon, Rachilde, mais attendez, appeler un gosse comme ça, c'est bien, mais imaginez-le dans une cour de récréation, hein, ça va pas être facile pour lui. Alors, quand il est revenu où ma grand-mère accouchait, au domicile de la sage-femme, parce que ça se faisait comme ça, et elle a découvert le prénom, et là, elle était complètement atterrée, quoi. Elle était complètement atterrée, ma grand-mère, c'est elle qui me racontait, hein, elle ne savait pas. Et alors elle s'est souvenue que quand elle était gosse, elle avait elle était une famille un peu bourgeoise, hein, à Constantinople, qui est Istanbul maintenant, et elle avait une dame qui la gardait, qui est moitié bonne, moitié, enfin, etc., qui s'appelait Gilda, qu'elle aimait beaucoup. Alors elle l'a... Ben pourquoi on ne l'appellerait pas Gilda? Alors on a appelé ma mère Gilda. Mais pour l'état civil, c'est Achilde, parce que l'employé de mairie a oublié le R. Donc il a mis un H à la place, ou peut-être qu'il a mal écrit, l'abord en dessous du R a disparu à l'imprimerie, j'en sais rien. Ma mère s'appelait Achilde. H-A-C-H-I-L-D-E. Voilà. Et tout le monde l'a toujours appelée Gilda.
Et ça, voilà. D'ailleurs, je vous cite, page 135, « Donner un prénom hébraïque à un enfant était une chose, mais nous étions en France, au XXe siècle, et non plus au shtetl, au siècle dernier, à donner aux enfants des prénoms hébraïques qui, ici, feraient subir à leurs porteurs les moqueries de leurs camarades d'école. »
Ben voilà, le shtetl, c'est le village juif traditionnel. Hein, voilà, ça s'appelait un shtetl en yiddish. Voilà. Et effectivement, donc, les enfants se sont appelés, bon, ma mère Gilda, parce que, bon, après tout, pourquoi pas, c'est exotique, hein. Et après, elle a connu la gloire, parce que quand Rita Hayworth allait passer au cinéma, alors là, c'était merveilleux, vous voyez. Bon. Et puis, ma tante s'appelait Valérie, mon oncle Maurice, bon, donc, voilà, rien de plus normal. Mais, contrairement à d'autres familles juives, ont gardé leurs traditions, y compris religieuses, parce que mon grand-père a aussi laissé de côté toute la partie religieuse du judaïsme. Hein. Il est devenu même athée, il est mort, il était athée. Hein, ça m'a été confirmé. Bon. Et vous avez d'autres familles juives qui gardent des prénoms pour la synagogue et qui ont francisé le prénom pour l'état civil, ou un prénom d'usage. Hein, vous en avez qui continuent à s'appeler Yankel, Yakov, enfin, etc., Yitzhak, et qui ont un autre prénom d'usage en France. Mais sur l'état civil, c'est un prénom hébraïque. C'est pas le cas des enfants de mon grand-père. Voilà. Et ça, c'était aussi dans sa démarche d'intégration.
Ce qui est aussi surprenant dans votre texte, c'est lorsque le père de Léon, qui est resté en Russie, oui, écrit à son fils. Tantôt il lui écrit, non, c'est l'inverse, tantôt Léon écrit en yiddish, tantôt il écrit en français, selon finalement le contexte, selon le contenu,
eh oui,
du message.
Selon le contenu du message, parce que son père, donc mon arrière-grand-père, hein, lui, il est resté en Russie, il est mort en 1923 d'une épidémie de typhoïde. Hein. Mais, c'était un juif qui n'était pas vraiment pieux, mais qui gardait, c'était en Russie. Hein. Il avait les traditions religieuses du judaïsme. Il parlait russe, il parlait yiddish, mais les lettres étaient ouvertes. Alors, les employés russes des ministères, ne connaissait pas le yiddish. Donc quand il passer des informations normales, ta mère va bien, enfin, etc. Il pouvait écrire en russe, c'était pas... Mais quand c'était un petit peu plus confidentiel, disons, là, on écrivait en yiddish. Vous voyez, il y avait toujours cette ambivalence. Mais arrivé en France, bon, mon grand-père, bien sûr, parlait, comprenait le yiddish et le russe, mais lui, il écrivait en français.
Voilà. Daniel Chambon, vous parlez beaucoup du yiddish.
Oui.
J'aimerais bien que vous nous en donniez quelques exemples.
Ah, ben, je n'ai pas une connaissance du yiddish très étendue. Je connais quelques mots. Hein. Voilà, je sais qu'aujourd'hui, par exemple, pour les gens qui ont gardé des habitudes religieuses, ben, c'est Shabbat, en yiddish. C'est ce qu'on a, on connaît en France sous le nom de Shabbat. Hein, le Shabbat, c'est le vendredi soir, voilà. Ça a commencé, d'ailleurs, le soleil est couché. Donc c'est Shabbat. Mon grand-père était tailleur. Tailleur en yiddish, ça se dit Schneider. Voilà. Et qu'est-ce qu'il fait un tailleur? Ben, il s'occupe des tissus, et le tissu, c'est le shmates. Voilà. Le shmates, bon, c'est un petit peu connu, ça veut dire aussi bien chiffon, enfin, c'est chiffon, hein, chiffon. Mais, par extension de sens, c'est devenu habit. Hein, voilà. Et il y a des tas de mots comme ça qu'on a un petit peu, qu'on connaît plus ou moins. Bon, il y a bien entendu des plaisanteries. Donc un fou, c'est peut-être le mot le plus connu. Le fou, c'est le méchugé. Méchugé au pluriel, méchégané. Voilà.
Tout votre texte est émaillé de termes yiddish. Et d'ailleurs, c'est très bien, il y a un glossaire à la fin.
Glossaire, oui.
C'est formidable.
Oui, mais, alors pour le coup, c'est très bien fait parce que franchement, moi j'ai assez peu recouru au glossaire. C'était assez transparent quand
même. Je me suis acharné à chaque fois que j'emploie un mot yiddish, non seulement pour faire couleur locale, mais surtout pour me remettre dans l'esprit de mon grand-père, parce qu'il connaissait le français. Mais bon, il y avait quand même des expressions qui venaient plus naturellement dans sa langue maternelle. Donc, il les employait, et à chaque fois que j'emploie un mot yiddish, je mets à côté ce que ça signifie. Voilà. Donc, c'est assez simple. Hein, et pour faire bon poids, je mets un glossaire à la fin. Voilà.
Et autre petite chose qui émaille le récit, c'est les blagues. Les blagues juives, les fameuses blagues juives.
Voilà. Alors, les vitz
au pluriel, vitzen.
Et c'est amusant parce qu'en Suisse romande, moi, j'ai beaucoup de cousins dans le canton de Neuchâtel qui disent « je vais te raconter un vitz ».
Mais oui, parce que le yiddish est c'est une langue qui est dérivée de l'allemand, qui emploie à peu près, en gros 70% de mots allemands, et puis le reste se partage entre le russe, entre éventuellement le polonais, alors ça dépend des régions, et des mots hébreux quand même aussi, parce qu'on n'oublie pas qu'on vient de là. Hein. Et en particulier, pour tout ce qui a trait à la religion, on retrouve des mots hébreux. Et donc avec le pluriel, des mots hébreux en « im ». Vous voyez par exemple, un « goy », vous savez tous ce que c'est qu'un « goy », mais on ne dit pas « des goy », on dit « des goyim ». C'est le pluriel. Voilà. Et donc c'est effectivement un patois d'allemand, quoi. On retrouve un peu beaucoup d'expressions germaniques. Pourquoi d'allemand? Parce que c'est l'Europe de l'Est et qui, pendant longtemps, a été dominée par la Prusse, quoi.
Alors, quelques petits exemples, Evelyne, en as-tu relevé de ton côté?
Non. Alors, je comptais sur.
On peut alors, en prendre. Hein.
J'en ai relevé, par exemple, mieux vaut un juif sans barbe qu'une barbe sans juif.
C'est évident, non? C'est évident. Alors, vous parlez de l'humour juif, enfin de l'humour du grand-père ou du livre. C'est un grand honneur qu'on me fait, mais les juifs ont beaucoup d'humour. Ont beaucoup d'humour, pourquoi? Parce que d'abord, c'est à peu près le seul peuple qui est capable d'autodérision. Parce qu'il vaut mieux rire. Quand on est malheureux, il vaut mieux rire. Hein, on rit de ses propres malheurs.
C'est rire pour ne pas pleurer, c'est ça l'humour juif. Hein.
Exactement. On rit. Donc, on rit, on raconte des blagues. Si vous voulez, je vous en raconte 200. Là. Bon, mais on n'est pas là pour ça. Bon,
Une seule, Daniel.
Seule. Alors, c'est un paysan. C'est un paysan qui se dit quand même on a un petit peu de mal. Il dit à sa femme, il dit voilà, on a un peu de mal quand même à vivre. Ça serait bien si on pouvait étendre la ferme. Bon, on a des poules, le machin, des canards, mais ce serait bien si on achetait une vache. Et puis la vache, il y a le voisin qui a un taureau, il pourrait la saillir, hein, et tous les ans, ça nous ferait un veau. Et puis, peut-être on augmenterait le cheptel. Dans tous les cas, si on n'a pas de veau, on pourrait avoir du lait, et puis on vendrait le lait, ou on ferait, enfin, etc. On ferait du beurre, on le vendrait. Bon, la femme, elle dit oui, d'accord. Alors ils vont à la foire, hein. Et puis ils achètent une vache. Et puis ils la présentent au taureau. Le taureau, il regarde la vache, il la flaire, il la renifle, il s'approche, et la vache, elle se tire. Oh, il est mince, ça, c'est pas bien, quand même. Alors, le paysan d'à côté, le voisin, il dit, bah, peut-être, je sais pas, on va recommencer demain. Alors, il recommence le lendemain, et même manège, la vache ne veut rien savoir. Plusieurs jours de suite, quand il dit quand même, ça, c'est pas normal, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, vous savez, c'est simple, hein, les paysans juifs, enfin, les juifs en général, le chef de la communauté, c'est le rabbin. Donc, on va demander conseil au rabbin. Alors, le gars, il dit, voilà, rabbin, ah, oh, salut Jacob, qu'est-ce qui t'amène? Ben, voilà, j'ai acheté une vache, et puis le taureau, etc., il lui raconte l'histoire. Ah, le rabbin, il dit ça. Écoute, reviens demain, je vais réfléchir. Bon. Le type revient demain, enfin le lendemain, et il dit, alors, tu sais pourquoi ma vache, elle veut pas de taureau? Et il dit, j'ai pensé à un truc. Ta vache, tu l'as pas achetée à Minsk par hasard? Il dit, si, je l'ai achetée à Minsk, et alors le rapport? Ben, il dit, ma femme aussi, elle est de Minsk. Voilà.
Alors, il y a
tout aussi. S'explique.
J'ai relevé, toujours par rapport à l'humour de votre ouvrage, dont je rappelle le titre, Monsieur Léon, juif russe, donc de Daniel Chambon, notre invité ce soir à bord de Wagon Livre. Il y a, lorsqu'un fils se marie, il divorce d'avec sa mère, mais ça, bon, ça c'est ça.
Bah, tout le monde connaît la mère juive.
Oui.
Mais voilà, bon, et là, pour mon arrière-grand-mère, ça a été une catastrophe. Enfin, tous ses enfants, ça a été une catastrophe à chaque fois qu'ils se marient. Ah oui, bien sûr.
Alors, lorsque Léon arrive à Paris, il dit, dans le récit, « J'ai la possibilité de me vanter, car ici, personne ne me connaît. »
Voilà.
J'aime bien ça aussi.
Ah ben oui, mais ça fait partie des expressions traditionnelles, voilà. Bon, on est toujours à la limite entre qu'on peut montrer, ce qu'on peut cacher. On raconte des histoires. Hein. Je vais vous en raconter une qui est très courte, qui est vraiment typique. Hein. Deux types se rencontrent sur le quai de la gare. Voilà. Et il y en a un qui dit « Alors où tu vas ?» Et l'autre, il dit « Je m'en vais à Saint-Pétersbourg. » Ah. Il dit « Écoute, je te connais. Hein. Tu me dis que tu vas... Parce que tu me connais aussi. Tu penses qu'en me disant que tu vas à Saint-Pétersbourg, je vais me dire « Là, il me raconte des histoires et en fait, il ne va pas à Saint-Pétersbourg, il va à Moscou. » Alors qu'en fait, pour me tromper, tu dis ça, et tu vas réellement à Saint-Pétersbourg. Alors pourquoi mens-tu? Vous voyez, on est toujours là-dedans.
Il y a ce proverbe yiddisheur formidable. Fais confiance, mais vérifie.
Ah, bah, c'est la moindre des choses, non?
Fais confiance, mais vérifie. Et puis alors, il y a plus terrible. Boucler une valise, c'est toujours très rapide chez les Juifs, c'est une habitude.
Ça, c'est pas un proverbe, hein, c'est l'expérience. Hein. Ah oui, parce qu'il y a des... Moi, j'ai une cousine qui avait toujours sur elle une cuillère en argent. C'était le seul truc qu'elle avait pu sauver de Russie. Et elle gardait sa cuillère en argent, elle disait, on sait jamais, je peux être obligé de partir dans les 5 minutes. J'ai ma cuillère. Je pourrais toujours la vendre.
J'ai rencontré, c'était à New York, dans une galerie d'art, je discutais, grâce à quelqu'un qui traduisait pour moi, avec ce marchand d'art juif, qui m'a sorti un diamant qu'il avait dans la poche et qui m'a dit, voyez, dès que je suis menacé, je pars avec ça, n'importe où, quatre coins du monde.
Voilà.
Et c'est et la même histoire avec votre cuillère en argent.
Ah oui, il faut partir.
C'est extraordinaire. Diamant, truc. Voilà.
Mais faut replacer aussi dans le contexte, c'est qu'il y avait des pogroms monstrueux.
Alors, il faudrait peut-être rappeler ce qu'est un pogrom pour la plus jeune génération.
Oui, alors un pogrom, c'est une chasse à l'homme. C'est une chasse à l'homme. D'un seul coup, ça les prenait. Quand je dis ça, les prenait, c'était aussi bien les habitants russes hein, ou polonais. Il y a eu des... À noter qu'il y a eu des heures du sujet, mais il y a eu des pogroms en Pologne après la guerre de 40. Hein, dans les années 46-47, à Kielce en particulier, il y a eu des... les paysans polonais étaient encore à pourchasser les juifs et à les tuer. Hein. Il y a eu une cinquantaine de morts. Bon, voilà. Donc ça les prenait comme ça, et sous ou pas sous, non, tiens, on va se faire des juifs. Voilà. Bon. Et les autorités laissaient faire. Quand même, bien souvent, il les provoquait. C'est-à-dire qu'il disait, c'est simple, hein, il y a une longue tradition qui s'appelle le bouc émissaire. Quand quelque chose va mal dans un pays, on s'en prend à une communauté en disant c'est de leur faute. Pendant qu'on fait ça, on ne pense pas à la réalité des choses. Vous voyez, c'est pareil que les interventions, les guerres extérieures. Hein, on va déclarer une guerre pour, bien souvent, que les gens oublient les problèmes intérieurs du pays. Bon, voilà. Là, il y avait les Juifs sous la main. On n'avait pas besoin de faire la guerre. C'était bien. Donc, on les massacrait. On était contents comme ça. Voilà. On avait gagné la guerre. On avait perdu. On s'en prenait aux Juifs. On avait gagné. On arrosait ça. On tapait aussi sur les Juifs. Enfin, voilà. C'était comme ça. C'était ça, les pogroms. On a appelé ça... C'est un mot très vilain. Mais tout le monde ici s'en rappelle, sauf peut-être les plus jeunes, mais bon, pendant la guerre d'Algérie, on appelait ça les ratonnades. Voilà, c'est ça. D'un seul coup, ça les prenait. Bon, voilà.
Monsieur Léon, juif russe, c'est le titre de l'ouvrage de notre invité, Daniel Chambon, ouvrage disponible depuis le mois d'avril dernier aux éditions de Paris Max Chaleil. On marque une nouvelle petite pause musicale et on se retrouve toujours...
Voilà.
À la librairie L'Autre Monde et en public pour la suite de Wagon Livre.
C'est pas que j'aime pas l'air de Paris, mais le ciel gris me désespère. Je vous rassure, je vous fais pas la gueule, mais je dois rendre visite à ma mère. C'est pas que je suis fan des OGM, mais le bio pour moi c'est trop cher. Je gagne le SMIC et encore, je vis grâce à mon découvert. Il faut que je me concentre sur ma vie et me dire Dieu merci, je suis le chien le matin. C'est pas que j'aime pas la politique, mais tous ces gens, moi je les connais pas. Je sais que c'est une histoire de fric, d'hommes et de femmes qui ne s'aiment pas. Il faut que je me concentre sur ma vie et me dire Dieu merci, je suis en vie. Je suis à bout, je n'en peux plus de ces insomnies. Je cogite, je cogite, je cogite. Chanter devant des salles pleines, mes titres en boucle à la radio. Il faut que je me concentre sur ma vie et me dire Dieu merci, je suis en vie. Je suis à bout, je n'en peux plus de ces insomnies. Je cogite, je cogite, je cogite toute la nuit. Quand je pense à ma vie, je me dis que tout ne va pas.
Monsieur Léon, juif russe, c'est le titre de l'ouvrage de notre invité, Daniel Chambon. C'est un livre qui, d'ailleurs, présente au centre un cahier de 8 pages de photos de famille. Il y a une carte et un arbre généalogique qui éclaire donc l'itinéraire, le parcours de Léon Dubrovski, le grand-père de notre invité. J'aimerais, à moins Kevin ait une question spécifique, mais je voudrais aborder justement la difficulté de votre grand-père, qui d'ailleurs ne se mêle pas beaucoup de politique. Il reste très à l'écart de tout mouvement revendicatif. Il n'est pas marxiste, il n'est pas communiste. Il suit l'actualité des Balkans, de cette poudrière des Balkans. Il sent bien que quelque chose de néfaste va se produire. Et justement, j'aimerais, Daniel Chambon, que vous nous expliquiez la difficulté de la position de votre grand-père qui n'est pas français au moment de la déclaration de la guerre et qui souffre du regard, puisque c'est un homme valide qui aurait pu être dans les tranchées au combat et qui souffre du regard des autres, des Français, enfin de l'arrière, regardé comme un planqué. Et ça, il en a beaucoup souffert. Il a peur d'aller dans la rue.
Il en a peur parce que c'était quand même une période de l'histoire, ça a un peu changé maintenant, mais où le nationalisme, le patriotisme, parce que la différence c'est que quand on est patriote c'est qu'on aime son pays, quand on est nationaliste c'est qu'on déteste le pays des autres. Voilà, c'est quand même fondamental. Bon.
Mais il se pose la question au moment de la question, il se dit est-ce bon pour nous?
C'est
une question importante.
Ah mais ça c'est une question, c'est un questionnement.
Parce qu'il se la pose, pardonnez-moi, comme pour la... Voilà, c'est ça.
Ça traverse toute l'histoire juive. Petite anecdote.
Allez.
Alors c'est deux vieux juifs qui finissent leur vie tranquillement, hein, dans un village oublié des massacres, enfin bon, peu importe. Et puis comme tous les vieux couples, ils n'ont plus grand chose à se dire, le bonhomme il lit un journal. Et la vieille, comme toutes les vieilles, elle emmerde son bonhomme. Alors, mais il y a beaucoup de femmes célibataires ici. Alors qu'est-ce que tu lis? Alors le gars, il dit, tu m'embêtes. Mais qu'est-ce que tu lis? Mais rien, c'est un vieux journal qui date de 1925. Bon, voilà. Mais qu'est-ce qu'il dit ton journal? Oh, écoute, c'est l'équipe de football de Montevideo qui va rencontrer l'équipe de football de Buenos Aires. Alors, tu vois... La vieille, elle dit, mais c'est bon pour nous, ça? Voilà. Et ça, ce questionnement-là traverse tout le temps l'histoire vieille. Vous voyez, parce que, pourquoi? Parce que toujours, ils ont été repoussés, massacrés, etc., chassés, hein, au long des siècles, d'Espagne, d'Allemagne, d'Angleterre, de France aussi, Philippe Auguste, enfin, d'Italie, de partout. Voilà. Donc, c'est un questionnement fondamental. Alors, qu'est-ce qu'on va encore me dire? Et puis, c'est toujours l'histoire du bouc émissaire. Hein, mon fils, il est aux tranchées, et puis l'autre bonhomme, là, il a l'air en bonne santé, et puis il va pas se battre. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez? Et ils ont peur de ça, c'est vrai. Hein, bon. Et le patriotisme, en 14, c'était quelque chose. Quoi, hein, on avait chauffé les gens pendant plusieurs dizaines d'années pour récupérer l'Alsace, la Lorraine. Enfin, voilà, on était fait de ça. Hein, la ligne bleue des Vosges, voilà, tout le monde entendait parler de ça.
Et vous écrivez, page 105, un juif ne peut pas toujours rester en dehors de la situation internationale, même lorsqu'il n'est pas lui-même concerné.
Mais bien sûr. Parce que, bon, il va pas... regardez ce qui se... Bon, je vais extrapoler, mais ce qui se passe en ce moment, par exemple, au Moyen-Orient. Hein, bon, c'est désolant, mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Résultat, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les Juifs français, hein, qui se font emmerder pour des problèmes qui se passent à plusieurs milliers de kilomètres et dont ils ne sont pas responsables. C'est exactement la même chose. Vous voyez, c'est ça. Alors, on est pour, on est contre.
Ouais, l'inverse est valable aussi. Hein.
Mais bien sûr, non, mais on est. Voilà, c'est le problème des gens qui sont dans un pays qui est en guerre contre l'autre et on essaye de trouver, on s'en prend à eux. Ben, je ne sais pas si demain on déclarait la guerre à l'Angleterre, ou à la Belgique, ce qui paraît complètement inconcevable. Hein. Ben, y a des Belges ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un embargo sur la bière ou sur... Non, mais voilà, c'est ahurissant, quoi.
Une question d'Evelyne Levallois.
Oui, vous dites que ces Juifs sont chassés de différents pays à travers toute l'histoire. Voilà. Mais il y a quand même un endroit, ce que vous appelez le Yiddishland, la zone de résidence.
Non. Alors, la zone de résidence, on va commencer historiquement. Il y a eu les partages de la Pologne, 6, à la fin du XVIIIe siècle. Hein, et la Pologne a été partagée entre ses pays voisins. Ses pays voisins étaient l'Empire russe, l'Empire austro-hongrois et l'Empire allemand. Donc, plus de Pologne. Hein. La Pologne devait attendre plus d'un siècle, c'est-à-dire la fin de la guerre de 14, pour avoir un État national. Hein, c'était, voilà, il n'y avait plus de Pologne. Bon, pourquoi il y avait tant de Juifs à cet endroit-là? Parce que, au XIIIe siècle, XIIe siècle, les Juifs étaient chassés de partout d'Europe occidentale, et les souverains polonais ont compris que, là, s'ils accueillaient les Juifs, leur commerce allait pouvoir se développer, etc., etc. Donc, ils leur ont fait des conditions de vie simplement acceptables, hein, en les laissant vivre, hein, en paix. Ce qui fait que beaucoup, beaucoup de Juifs chassés des autres pays se sont réfugiés en Pologne. Et quand la Pologne a été partagée entre ces trois États voisins, il se trouve que les endroits où il y avait le plus de Juifs, c'était à l'est de la Pologne, et c'est tombé sur la Russie. Donc ils sont devenus russes, sans l'avoir rien demandé d'ailleurs. Hein, voilà. Et c'est pour ça qu'il y en avait tant. Mais les tsars ont toujours été, les Russes aussi, bien sûr, ont toujours été plus ou moins antisémites, donc ils ne voulaient pas qu'ils aillent dans le reste de... Donc ils ont créé une zone de résidence où les Juifs, dont les Juifs n'avaient pas le droit de sortir. Voilà, ils pouvaient, et encore, il y avait des endroits qui leur étaient interdits dans cette zone-là, mais il y avait une zone de résidence. Donc il y avait des chiffres, il y avait à peu près 11 millions de Juifs sur la planète à cette époque-là, il y en avait la moitié dans cet endroit-là. Vous voyez, ça fait beaucoup. Et sur cette moitié, il y en a la moitié qui sont partis en Occident pour fuir les pogroms. C'est pour ça qu'il y en a tant à New York et ailleurs. Voilà. Et donc, bon, donc c'était... Mais le Yiddishland, c'est venu après. C'est une invention, hein, c'est une invention qu'on a de la fin de la première partie du XXe siècle. Il n'y a jamais eu un pays qui s'est appelé le Yiddishland. Le Yiddishland, c'est quoi? C'est l'endroit où on parle yiddish. Voilà. C'est pas autre chose. Ça n'a jamais été un État, c'est une construction un peu emblématique, mais il n'y a jamais rien eu d'officiel. Voilà, vous avez, je n'ai nulle part, vous avez un tampon marqué Yiddishland, quoi. C'est pas vrai. C'est, voilà. Donc, mais ça s'est appelé Yiddishland, en particulier ben, quand il n'y a plus eu de Juifs, hein, c'est-à-dire après 1945. Hein. Ben oui, comme par hasard. Voilà.
On va être obligé de vous interrompre, Daniel Chambon, pardon, mais bien évidemment, prolongement à travers votre ouvrage dont je rappelle le titre, c'est Monsieur Léon, Juif russe, 1882-1928, chez l'édition de Paris, Max Chalet. Et Daniel, vous restez avec nous parce que Evelyne Levallois va bien sûr nous présenter le coup de cœur de la librairie L'Autre Monde, 42 Grande Rue à Avallon, qui nous accueille d'ailleurs ce soir en public. Merci au public d'être là. Mais vous pouvez applaudir Evelyne.
Merci, merci Daniel. Alors moi, le coup de cœur de la rentrée littéraire pour la librairie, en tout cas en mon nom, c'est Philippe Meyer. Sans doute en non-juif encore.
C'est possible, mais c'est pas sûr.
C'était une blague. Donc Philippe Meyer pour Le Fils, l'histoire du Texas. Et à travers l'histoire du Texas, c'est l'histoire de l'Occident, comment l'Occident, les Blancs arrivent... au Texas, et évidemment, c'est les rois, hein, donc ils vont chasser tout le monde, d'abord les Indiens, ensuite les Mexicains, et ils vont s'approprier tout ce qu'il y a à s'approprier. Ils vont faire de l'argent avec la terre, et puis quand il n'y a plus rien sur la terre qui peut pousser parce qu'ils ont tout massacré, il n'y a plus de bisons, il n'y a plus d'herbe de toute façon, enfin voilà, ils vont trouver du pétrole, donc ça c'est magnifique, on va construire ces grands états, on va continuer d'avoir des ranchs parce que c'est joli, mais ça ne sert plus à rien parce que c'est pas rentable, c'est vraiment le pétrole. Puis un jour, il n'y a plus de pétrole non plus au Texas, il n'y a plus tant que ça, donc du coup, on va acheter du pétrole. Enfin, on va acheter des terres dans les pays qui sont actuellement en guerre, hein, bizarrement. Voilà, donc c'est toute l'histoire de ce pays, de cet État des États-Unis, mais qui est emblématique de l'histoire des États-Unis, qui est aussi emblématique de l'histoire occidentale, hein, comment l'Occident est allé conquérir des terres en Afrique, piller toutes les richesses, et puis ensuite avoir du mal à les rendre et continuer encore de les exploiter autant que faire se peut. Enfin voilà. Donc à travers l'histoire du Texas, l'histoire du monde, et vraiment ce côté. Ce qui est formidable avec Philippe Meyer, c'est que c'est un romancier qui doit à peu près lire, je sais pas, 500 livres pour en faire un seul. Et donc c'est extrêmement bien documenté sur les Amérindiens, ce qu'on appelle aujourd'hui les Amérindiens. Donc trois voies narratives dans ce roman. Le grand-père, celui qui a fondé la lignée. Le fils, d'où le titre, hein, c'est le personnage indigne du roman. Puisque il n'est pas contre les Indiens, il aime bien les Mexicains. Alors franchement, voilà. Et la fille qui, elle, va... À partir du moment où c'est une fille qui règne sur ce milieu-là, on sent bien qu'il y a quand même un délitement. Hein. Je ne vais pas le dire, mais bon, quand même, quoi. Donc un très très beau roman sur l'histoire des États-Unis et de l'Occident. C'est un très gros roman aussi, hein, puisqu'on est à 600 et quelques pages. Voilà.
Et c'est aux éditions...
Albin Michel, le fils de Philippe Meyer.
Merci Evelyne pour le coup de cœur de la librairie L'Autre Monde. Un rappel peut-être des prochains apéros, prochains rendez-vous à la librairie L'Autre Monde, 42 Grande Rue à Avallon, la librairie partenaire de l'émission Wagon Livre sur Radion.
Ah bah le 19 septembre, Alain Quévès, hein,
l'excellent. Rhubarbe, l'excellent Alain Quévès. Oui.
Oui, pour les éditions Rhubarbe qui
prix
ont 10
Prométhée
ans.
De la nouvelle en 1997 pour le geste manqué de l'amant aux éditions du Rocher. Très 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 beau recueil.
Voilà. Moi je vais pas tous les faire, mais Bruno Poissonnier aussi viendra, autre auteur au Serrois, au mois d'octobre. Et puis Serge Moncomble, et puis une expo photo, tiens, Pierre-Emmanuel Vec à Avallon, voilà.
Affaire à suivre, on vous tiendra bien évidemment régulièrement au courant. Le 20 septembre à 15h à la Maison Jules Roy, l'historien Alexandre Lafont est en conférence, invité par les amis de Vézelay pour revenir sur, vous savez, le journal de cette famille Papillon qui a été retrouvé dans le grenier du couple Bochard, qui d'ailleurs a édité, tu as d'ailleurs le livre en librairie Evelyne. Et puis bien sûr, on rappelle, Livres en Vigne, les 27 et 28 septembre, c'est au château du Clos de Vougeot, c'est-à-dire à une quinzaine de kilomètres au sud de Dijon. Evelyne Levallois, la librairie L'Autre Monde, fait partie des quatre grandes librairies bourguignonnes associées à cette fête du livre au cœur du vignoble bourguignon. On rappellera quand même que cette septième édition de Livres en Vigne est cette année présidée par l'académicienne Dominique Bonnat, que l'on connaît puisqu'elle a été la biographe de Romain Gary, qui d'ailleurs est un juif russe, hein,
ah oui,
d'origine russe. Hein. Biographe de Romain Gary, de Stéphane Zweig, de Berthe Morisot, de Camille Claudel, et puis surtout, tu dois avoir le livre, je pense, Evelyne, chez Grasset, le Je suis fou de toi, qui est le récit de l'amour-passion que Paul Valéry, approchant les 70 ans, a nourri pour une femme de 34 ans qui s'appelait Jeanne Voilier. Voilà. Prochain rendez-vous. Merci beaucoup, Evelyne, et Carole, de nous avoir accueillis dans votre librairie. Merci à Daniel Chambon pour avoir été l'invité du 174e numéro de Wagon Livre. On rappelle le titre de votre ouvrage, Monsieur Léon, Juif russe. C'est aux éditions de Paris Max Chaleil. Et puis, je vous donne rendez-vous toujours sur Radion, mercredi 24 septembre à 21h, avec Evelyne Philippe, qui est la créatrice et l'organisatrice de Livres en Vigne. La première fête du livre au cœur du vignoble bourguignon. Elle nous déclinera le programme d'un des salons du livre, je crois, les plus prestigieux en Bourgogne. Osons le dire. Merci au public, bonne soirée et rendez-vous mercredi prochain sur Radion 90.5 ou alors en direct via internet sur le www.radion.fr. Au revoir.